Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, le retour d'un célèbre dessinateur qui rend hommage à ses amis disparus. Un médecin québécois qui nous enseigne la bienveillance envers soi et le grand roman historique très personnel d'un comédien français. C'est le grand retour de Luz, échappé de Charlie Hebdo malgré lui, pourchassé par les caustiques fantômes de sa vie. Une vie changée à tout jamais et une fois encore un livre sublimé par la douleur qui reste en tout cas cette fois dans la joie et qui montre à quel point Cabu, Charb, Volinsky, Tignous et tous les autres étaient de formidables personnages qui célébraient la vie. Bonjour Luz.
Bonjour.
Merci d'être encore une fois sur notre plateau.
Ouais, merci de m'inviter. Ouais.
Ben, vous serez toujours chez vous ici, comme l'était Cabu. Voilà, c'est l'une de vos maisons. Merci d'être avec nous, on parlera de votre livre ensemble dans quelques instants. Il publie un roman très personnel sur l'amour, l'amitié et la guerre. Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour.
Merci aussi d'être là. Après votre récit intime Mémé, dont nous avions parlé ici même, vous publiez votre premier roman qui, là encore, évoque votre famille. C'est un livre très émouvant sur votre père et sur ces guerres qui volent l'enfance. C'est un choc psychologique de lire ce livre. Vous en êtes ressorti comment de l'écriture, vous ?
Un peu troublé aussi, surtout par certains passages, mais très heureux de l'avoir fait.
Ouais. Bon, nous reviendrons sur cette histoire chargée d'émotions. Et puis, il y a plein de choses à dire sur la guerre, sur l'amour aussi. C'est un livre sur l'amitié aussi, nous le verrons ensemble. Oui. Et puis, nous parlerons sous le regard attentif de notre médecin québécois. Le docteur Serge Marquis est obsédé par l'ego qui entrave nos actes et pensées. Il nous encourage cette fois à la bienveillance envers soi-même, mais aussi envers les autres.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Pour la France cette semaine, c'est Sophie Todescato, libraire à Orléans, qui est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Les Temps Modernes.
C'est ça.
Toujours aussi moderne.
Toujours aussi moderne, plus que jamais.
Plus que jamais. En Suisse, on retrouve Laura Sanchez de la librairie du Boulevard à Genève. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
On parlera d'une aventure qui vous est arrivée tout à l'heure dans vos coups de gueule, coups de cœur. Quelque chose d'assez grave que nous soulignerons et vous aurez évidemment tout notre soutien. On verra ça ensemble tout à l'heure. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre libraire belge, vous, libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne, fidèle au poste. Et pour le Canada, on retrouve Josiane Letourneau, libraire à Montréal, dans la librairie du Square. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Nous serons à Montréal, au Salon du Livre, le 15 novembre prochain. J'ai déjà la date en public. On compte sur vous, vous serez là, j'espère.
Ah ben je vais essayer, certainement.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Avant de parler de la bande dessinée de un hommage à un autre dessinateur. René Pétillon est mort dans une presque indifférence médiatique le 30 septembre dernier, quelques heures avant Charles Aznavour. Connu et apprécié du grand public grâce à son détective Jack Palmer qui avait secoué les Corses et les Bretons avec succès, il était le dessinateur vedette du Canard Enchaîné et avait pris son crayon pour collaborer à la reparution de Charlie Hebdo en février 2015 après l'attentat. René Pétillon était venu plusieurs fois à notre micro pour nous raconter de petites histoires drôles et réalistes. Voici un extrait d'un entretien sur le blanchiment d'argent. Et vous allez l'entendre, il n'y a aucune retenue.
Si on fait le compte de tout ce qui est planqué en Suisse depuis un certain nombre d'années, donc des impôts non payés en fait, parce qu'il y a une partie amnistiée là-dedans.
C'est un peu ça, ouais.
Donc ça vaut toujours le coup de frauder en fait finalement. C'est, l'État est toujours plus indulgent avec les riches fraudeurs qu'avec les pauvres qui ont du mal à payer leurs impôts, c'est bien connu. Et on parle pas des multinationales qui fraudent allègrement le fisc.
Mais elles fraudent pas les multinationales.
Non, bien entendu.
C'est un complot ça.
Non, c'est uniquement...
C'est du fantasme.
Oui, bien entendu. c'est uniquement des facilités de trésorerie qu'elles s'octroient.
C'est ça, voilà. Bah, il faut bien avoir un peu de trésorerie, sinon on n'avance pas, on construit pas, on n'emploie pas, rien. Le système s'effondre, René.
Tout à fait, le sort de la nation est entre leurs mains, c'est bien connu.
Il y a une réplique que l'un de vos personnages dit, je cite, que les choses soient claires, « Je ne suis pas un mafieux, je suis un citoyen helvétique ».
Oui,
c'est vous chargez. Hein.
C'est une petite vanne. Oui, c'est-à-dire que cet album est basé sur l'idée de la respectabilité apparente, qui cache des réalités un peu moins ragoûtantes. C'est-à-dire que à la tête de certaines d'entre elles, il y a des familles régnantes qu'on voit dans les couvertures de magazines, etc. Mmh. Mais il se trouve qu'elles pratiquent, et c'est notoire, le blanchiment à grande échelle. Et Palmer joue le rôle du grain de sable dans cette mécanique, encore une fois bien huilée, et qui a tous les airs de respectabilité. Et quand on parle de respectabilité, évidemment, on pense tout de suite à la Suisse. Je pense que je suis pas très à l'aise dans le sérieux, et je crois que l'humour est un bon véhicule pour faire passer une indignation aussi.
Une pensée pour René Pétillon et tous ses proches, un grand dessinateur qui nous quitte, et c'est une part de notre enfance qui s'éloigne, quel que soit notre âge. Luz est dans la librairie francophone pour son album Indélébile, paru chez Futuropolis. Vous avez connu René Pétillon, Luz?
Je l'ai croisé, ouais. Je l'ai croisé. On se connaissait pas tous très intimement, mais j'ai croisé Pétillon. Mais surtout, je le croisais déjà toutes les semaines dans Le Canard. Ça suffit, en fait, pour connaître les gens, parfois.
Ouais.
Et lui, c'est marrant parce que c'est un dessinateur qui vient de la bande dessinée et qui, après, est arrivé dans la presse et qui avait ce style très particulier où chaque dessin avait raconté une histoire. Chaque dessin avait un avant qui était caché. Un futur qui allait arriver. On était dans un entre-deux.
Ouais,
et ces personnages étaient toujours un peu coincés dans le présent. Ouais. C'était magique. C'est toujours magique parce qu'on peut toujours lire du Pétillon si on cherche un peu.
Alors, dans votre livre, Luz, vous revenez avec humour et émotion sur vos années Charlie, de vos débuts au dernier bouclage avec cette équipe de choc. L'attentat n'est pas évoqué directement. Vous imaginez juste comment aurait réagi la rédaction à la mort de Johnny Hallyday.
Ouais.
Et ce sont les dernières pages, d'ailleurs, de cet album qui en comporte 300. Cabu qui n'aimait pas trop Johnny, d'ailleurs.
Ah non, mais personne à Charlie n'aimait Johnny. C'est faut pas croire ce qui s'est passé le jour de la mort de Johnny. Ça, c'est un troll, en fait, qui a inventé cette grande hystérie collective. En fait, pendant des années, on s'est dit... en plus, Johnny allait très mal. C'est un peu comme le pape Jean-Paul II. On savait qu'il allait mourir, mais on savait pas quand. Et Johnny, c'était ça, quand même, pendant une dizaine d'années. Et finalement, on s'est dit, bon, bah voilà, le jour où Johnny canne, c'est Cabu qui va enterré. Et finalement, ça aurait été l'inverse.
Ouais.
Et j'ai peut-être eu quelque chose un peu bizarre, un peu injuste. J'avais envie de rétablir la vérité parce que moi, comme pas mal d'autres gens, peut-être pas mal d'autres lecteurs de Charlie se sont dit le jour de la mort de Johnny, putain, qu'est-ce que Cabu aurait fait comme dessin.
Ouais.
Et on ne peut pas savoir ce qu'il aurait fait, mais on peut imaginer le plaisir qu'il aurait eu de le faire.
Et vous l'imaginez d'ailleurs très bien, sauf qu'on ne voit pas le dessin.
Non.
Cabu tient véritablement la vedette dans ce livre, Luz. C'est un personnage central. Tout est juste. J'ai eu la chance de le connaître et je l'ai retrouvé complètement dans vos dessins.
Ah, merci.
Vous avez eu cette chance de profiter de sa bienveillance, moi aussi. On va le dire ici, Cabu, c'était la gentillesse et la bienveillance absolue. Toujours calme, toujours travailleur aussi. Et c'est lui qui vous ouvre la porte de votre premier journal et qui vous permet de publier vos premiers dessins.
Oui, complètement. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance de le croiser dans la rue et en même temps, j'ai pris mon courage de main pour l'aborder. Et en même temps, Cabu était quelqu'un de tellement facilement abordable, quelqu'un effectivement d'une gentillesse assez inédite. Voilà, il a été un mentor, un passeur. Moi, je pensais pas faire un bouquin tant que ça autour de Cabu au départ. Je voulais juste raconter la vie de ce journal. Et le point de départ et le point d'arrivée de ce livre, ça reste Jean, parce que tout bêtement, j'ai passé une vie, 23 ans, à être un apprenti de Cabu, qui était celui qui savait tout faire. Ils avaient dessinateur, illustrateur, dessinateur de bande dessinée, reporter dessinateur.
C'était la référence technique à Charlie.
C'est la référence technique à Charlie.
Vérifier le papier.
Ah oui,
à l'imprimeur, il y a une scène comme ça quand vous lancez Charlie Hebdo. Il regarde le papier, il dit ça bave un peu là. Puis l'imprimeur lui dit non, mais ça c'est le papier qu'on utilise pour télépoche.
Oui, exactement.
Genre la référence.
Non, c'est quelqu'un comme les gens dans les publicités qui touchent le grain de café et qui savent qu'il vient de Colombie ou de.
c'est ça.
Oui. Et le Cabu qu'on a fréquenté tous les deux. Enfin, je pense qu'il vaut mieux que la charge symbolique qui lui est tombée dessus après le 7.
On va écouter du jazz en hommage à Cabu, si vous le voulez bien, Luz, en guise de bande originale de votre livre. Je trouvais que ça collait bien. Un titre qu'il aimait beaucoup, interprété par Cab Calloway. Il était fan de Cab Calloway. Et ce titre, on lui avait diffusé dans une émission au début des années 2000. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est un titre interprété avec les Blues Brothers.
We'll be right back. j'ai mon idée de dessin, je mets un disque de jazz, il me semble que ça m'aide à faire un dessin plus nerveux, vous voyez, qui bouge, quoi. C'est peut-être une illusion, mais...
C'est votre façon de fonctionner, tout simplement. Voilà. Ouais.
Hey, folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Honey, 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 honey.
Cab Calloway, les Blues Brothers, en hommage à Cabu. Cabu, Luz, qui vous apprend à dessiner dans votre poche. Vous vous entraînez sur Tignous, et puis tout seul un jour dans le métro face à une jeune fille.
Oui, il fallait pouvoir dessiner partout, dans n'importe quelle circonstance, de quelles conditions. Et effectivement, après avoir compris qu'en préparation d'un reportage en sous-marin au RPR, oui, parce que c'est ça aussi, c'est un métier dangereux d'être dessinateur, parce qu'il faut aller parfois assister à des réunions de jeunes RPR pour essayer de ramener un reportage. Et Cabu avait essayé de m'apprendre à dessiner effectivement dans ma poche. Et puis si vous essayez de dessiner dans votre poche dans le métro, ça s'appelle du harcèlement sexuel.
Oui, parce que c'est dans l'imperméable.
C'est dans l'imperméable.
Et comme la poche est un peu basse au niveau des testicules.
Voilà, des testicules.
Et du reste.
Effectivement, il y a une dame dans le métro que j'étais en train de dessiner, oui. qui a vraiment cru que j'étais un sale pervers.
Bon, ce n'est pas un livre de souvenirs où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Vous décrivez Rhys comme étant caractériel, Philippe Val, le menton en l'air qui se croit en permanence sur scène, Charb qui va très loin dans ses blagues, vous en pâtissez d'ailleurs, Wolinski obsédé par les femmes, et puis la concurrence, Plantu, qui revient par deux fois. Et dessiné comme Plantu, on a l'impression que c'est une insulte pour les gars de Charlie Hebdo.
Ah bah c'était quelque chose d'assez intriguant, parce que on avait du mal à comprendre le puzzle en fait de Plantu.
Je sais pas puzzle. Si,
parce que un dessin de Plantu, c'est une idée plus une autre idée plus une troisième idée plus une colombe de la paix plus une petite souris. Ouais. Et au bout d'un moment, on se dit c'est quoi le dessin ? Et après, une fois que t'as compris l'idée, tu dis ah oui finalement c'est un dessin de droite parce que c'est contre la CGT.
Non, vous exagérez.
Non, ça n'a pas toujours. Ça n'a pas toujours été ça.
Super, Plantu.
Non, mais c'est super. Oui, c'est très bien. Si vous aimez les oiseaux et les colombes, c'est très bien.
Mais moi, j'adore Plantu. Il était là il y a deux semaines, dans l'émission 3 semaines. Vous l'avez raté.
Ah, c'est marrant, ça.
Ah, c'est marrant. Bon, en tout cas, vous vous autorisez tout. Hein. C'est vrai, vous attaquez le physique, d'ailleurs, presque toujours. Même un handicapé mental, lors d'une signature, vous ne le ratez pas.
Non.
Vous comprenez ça, que certains soient choqués quand même par ces dessins sans limite ?
Là, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu le publier, c'est que c'était un lecteur, la personne qui était en face. C'était un lecteur, j'ai dessiné les gens le verront dans le bouquin, j'ai dessiné un dessin où je me fous un petit peu de sa gueule, et lui a l'humour, parce que c'est un lecteur, parce qu'on a créé une complicité, parce que c'est déjà un lecteur d'avant, c'est déjà quelqu'un qui sait, qui connaît mon dessin, etc. Et donc on peut tout se permettre avec quelqu'un qui est notre lecteur. Par contre, celui qui va venir après, qui va nous engueuler, ça sera le moniteur, ça sera l'éducateur. Et c'est vrai que voilà, tous les problèmes qu'on aura rencontrés aussi, etc., c'est quand, à partir du moment où on en a déjà parlé, mais où les dessins sont sortis du journal pour se retrouver dans les réseaux sociaux, et où finalement, le dialogue avec le lecteur n'existait plus, puisque d'abord, avant tout, Charlie, ce sont des années de dialogue. Ce sont des années de dialogue. Et on peut tout se permettre avec un lecteur qui achète le journal, qui ouvre le journal et qui vous comprend. Mais après, si c'est un lecteur qui est à l'autre bout du monde, qui a été obligé de regarder notre dessin, et c'est pas nous qui l'avons obligé, évidemment, ça peut être plus compliqué.
Mais en tout cas, Sharp dit à la fin du livre aussi, comme un pied de nez, on est à Charlie, on fait ce qu'on veut, mec, on encule la terre.
Ouais.
Ce sont les institutions et puis les intégristes religieux qui ont retourné nos cerveaux.
Je sais pas, il y a peut-être...
Par rapport au dessin de presse, par rapport à la caricature.
J'en sais, alors, je pense...
Parce qu'avant, Coluche et des proches se permettaient tout, on disait rien quasiment, on a oublié ça.
Il se permettait beaucoup de choses, mais après, il y a toujours, par exemple, même à Charlie, il y a toujours des ligues de vertu, des associations catholiques intégristes qui nous sont tombées dessus. Après, il y avait la justice pour s'occuper de ça. Après, on gagnait le procès, on en perdait, c'est ça. Mais après, je pense qu'il y a eu une histoire, il y a eu le problème de la caricature, des caricatures danoises qui ont plombé un petit peu l'affaire. C'est que, avant, un dessinateur, ça posait jamais un problème. La représentation ne posait jamais un problème. On a toujours été vu comme quelque chose. Oh, bah, le dessinateur, c'est pas dangereux, ouais, c'est un peu enfantin.
Mais sale gamin, quoi.
Sale gamin, ouais. Etc. Et un jour, à partir du moment où il y a eu un grand buzz médiatique international, on n'a plus pu être regardé et considéré comme des gens irresponsables.
Les caricatures de Mahomet.
Voilà.
Ouais. Vous vivez comment, Luz, aujourd'hui?
Je vis comme tout à chacun qui se lève, etc. J'ai une vie, normalement normale. Voilà.
Entouré quand même, protégé.
Oui, entouré, pas toujours des miens.
On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre. Il y en a trois qui l'ont lu, la Suisse, le Canada et la Belgique. On commence par qui?
Oh, les Suisses, ça fait longtemps que je connais bien la Suisse.
Allons-y, ah, Laura Sanchez.
Oh, merci, Luz. Moi, j'ai trouvé que cette bande dessinée était un drôle de mélange. Il y a beaucoup de tendresse, mais il y a aussi des séquences très crues, des élans autobiographiques assumés, mais aussi un vibrant hommage au dessinateur disparu de Charlie Hebdo et, effectivement, comme vous l'avez dit, surtout à Cabu. D'ailleurs, j'aimerais saluer cette scène de vous et Cabu face à cette photocopieuse infernale. Elle est absolument hilarante. Je pense que ce sera une scène d'anthologie. Et puis, je me pose une question, en fait. Pourquoi vous êtes remis en scène nue dans les moments plus nocturnes et introspectifs?
Oui, parce les interludes que, comme ça où Luz raconte un peu sur ses états d'âme sur une page, et c'est vrai qu'il est à poil.
Oui, je suis à poil parce que ces interludes, en fait, ils viennent après cette introduction sur un rêve un peu étrange où je m'imagine rentrer dans la conférence de rédaction et tout est normal et les gens m'attendent et en fait, la normalité, c'est que moi, je ne sois plus là. Et ce rêve m'a tellement obsédé qu'il a fallu que j'en fasse finalement un livre. Et,
pourquoi vous êtes nu alors?
Pourquoi je suis nu? Parce que je me réveille de ce rêve et je me replonge dans ces histoires. Donc, je suis nu parce que déjà, je pense que j'aime bien me dessiner, surtout je dors nu et que quelque part aussi dans les ténèbres il y a rien qui vous habille. Vous êtes juste habité.
Ouais. Allez, le Canada, ça vous va, Josiane Letourneau?
Très bien.
Oui, c'est certainement l'une des BD les plus, pour ma part, les plus émouvantes, importantes et ambitieuses que j'ai eu la chance de lire dans ma vie de lectrice et de libraire, parce que les deux existent en moi. Wow. Je crois que c'est une BD dont le titre est extrêmement bien choisi, en fait, et dont la lecture laisse effectivement quelque chose d'indélébile en nous, dans le bon sens du terme. Vous nous donnez beaucoup dans cette œuvre, Luz. Alors, merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup à vous. Vous savez, c'est... Je pense qu'on a tous, moi j'étais peut-être un enfant de Cabu, un enfant de Charlie, et on a tous d'une certaine manière ou d'une autre eu notre première fois avec Charlie. Et je pense qu'il y avait peut-être besoin que les lecteurs, que les libraires, que les gens qui nous ont accompagnés, les gens qui ont compris Charlie très tôt et qui ont été les vecteurs de notre humour et qui ont parfois du mal, maintenant on a du mal à essayer de faire comprendre ce qu'était avant Charlie. Peut-être que ça va nous servir à essayer de faire passer un petit peu mieux la réalité de cette époque.
Et puis il y a l'un de mes collaborateurs qui a lu votre livre, Luz, et qui m'a fait remarquer que chacun des dessinateurs dont on parlait, a mis une pierre dans la construction de votre personnalité en tant que dessinateur. Et il a tout à fait raison. Il y a en vous la précision et l'humanité de Cabu, l'engagement idéologique de GB et l'insolence de Charb.
On est pour eux. On est pour eux.
Mais vraiment.
Et c'est fort. Il y a peut-être quelque chose de moi qui surnage par-dessus. Mais en fait, on est un dessinateur ou quelqu'un qui vit avec des gens aussi talentueux. Ouais. On récupère l'écume du talent de ces gens. Et moi, ma personnalité, c'est juste une écume.
On va laisser le mot de la fin pour une libraire en Belgique. Déborah Damblon, c'est à vous.
Ben oui. Moi, je suis pas tout à fait fière parce que, au début, j'avais pas envie de le lire, votre album. J'étais trop sûre que j'allais me le prendre en pleine figure et que ça allait me retourner. Et évidemment, ça a pas manqué. C'est ce qui s'est passé.
Ah merde.
Mais vous êtes aussi arrivé, et c'est ça qui est important, vous êtes arrivé à redonner vie à ceux dont les corps ne sont plus là, en montrant à quel point leur talent et leur personnalité, ils disparaîtront que si nous, on cesse d'en parler et si on cesse de les lire. Et puis, je voudrais aussi saluer la qualité graphique de votre ouvrage. Ouais. Parce qu'on a beau être dans le témoignage, on est vraiment face à une œuvre artistique.
Ouais, c'est vrai. Voilà, l'avis de nos libraires, Luz. Terminons avec ces dessinateurs qui vous ont impressionné, effectivement, vous le dites, intimidés aussi. Et puis, on apprend plein de choses. On apprend aussi que vous avez été puceau jusqu'à très tard, Luz. Ouais. Souligné par Charb régulièrement. Et puis ensuite, adepte des salons érotiques porno sadomaso.
Ah oui, ça c'est quand je suis tombé amoureux.
Ah oui, quand on tombe amoureux, on va dans
quand on tombe amoureux, on se réinvente un érotisme. Ouais, non, mais la femme de ma vie qui est toujours là.
Est obsédée par les salons sadomaso.
Non, mais disons que on a partagé un amour, on partage un amour fou, on a partagé un érotisme incroyable. Ouais. Je suis poreux aux obsessions des autres. Quand j'ai rencontré Camille, qui était qui était très obsédée par le cul, bah tout d'un coup, il fallait que je fasse des reportages sur le cul. Alors quand je racontais par exemple que ah oui, il y a un festival sur le porno féministe en Allemagne, bah Charles me disait tiens, toi tu pars en vacances avec ta meuf.
Voilà, terminons sur une note de cul, ça tombe bien. Merci beaucoup, Luz.
De rien, merci à vous.
Vous restez bien sûr avec nous. Indélébile est paru chez Futuropolis. Il y a plein d'histoires et d'anecdotes sur ces années Charlie avec toute la bande. C'est un régal et un bel hommage. Loin d'être larmoyant, ils doivent être fiers de vous, Luz.
J'espère.
Merci beaucoup. On parle de la bienveillance avec le docteur Serge Marquis dans un instant. Nous allons lui demander d'ailleurs ce qu'il a pensé de notre échange, Luz. Il nous a observé en plateau. Ce sera après la chanteuse ivoirienne Dobé Niaoré et son titre Miziki dans la librairie francophone. Formidable voix de l'ivoirienne Dobé Niaoré avec un extrait de son nouvel album Miziki sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Serge Marquis.
Oui, bonjour Emmanuel.
Après votre livre à succès, On est foutu, on pense trop, et Le jour où je me suis aimé pour de vrai, vous publiez Bienvenue parmi les humains, mmh, aux éditions de La Martinière. Un petit traité de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Docteur, qu'avez-vous relevé lors de notre entretien avec Luz?
Bon, d'abord, j'ai été extrêmement touché, j'ai très hâte de lire ce livre, pour plusieurs raisons. J'ai été très touché d'abord parce que vous avez dit au sujet du fait qu'à Charlie Hebdo, on célébrait la vie. C'est très très juste, je crois qu'on y célèbre la vie. Vous avez aussi dit que Charlie Hebdo, ça avait été des années de dialogue. Et ça aussi, c'est bien important, parce qu'en ce qui me concerne, le dialogue est un espace où on découvre qui nous sommes. C'est là qu'on construit notre identité, parce que dans un dialogue, on peut enfin dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Et quand on dit « je n'avais jamais vu ça comme ça », on vient de changer. Et ça, c'est important. Et une troisième chose, ben, j'aurais vraiment aimé connaître Cabu après ce que vous en avez dit, parce que vous avez parlé de cet être bienveillant et... Il incarnait, à mon avis, dans vos propos, ce qu'est la bienveillance.
Alors, on va parler de la bienveillance avec vous, Serge Marquis. Vous proposez dans ce livre une analyse sur notre ego, une fois encore, et sur notre façon de le dépasser pour atteindre l'essentiel, à savoir le présent et la bienveillance. Mmh. Et vous illustrez vos analyses au préalable par des fables censées nous faire réfléchir, des histoires un peu genre fables de La Fontaine. Mmh. Vous nous prenez un peu pour des gamins, non?
Ah oui, ben, moi je suis resté un gamin, hein. Je suis un éternel gamin.
C'est vrai, oui, je confirme.
Ah, tout à fait. Beaucoup de gens me le disent. D'ailleurs, t'as encore 7 ans et je me réjouis qu'on me dise ça quelque part. Parce qu'il y a une espèce d'innocence, d'émerveillement. Et La Fontaine m'a beaucoup marqué, sincèrement. Parce que qui ne se souvient pas de du lièvre et de la tortue, de la cigale et de la fourmi, etc. Il y a des choses qui nous ont... Enfin, moi... Le lièvre et la tortue, ça m'a profondément marqué. J'ai une petite entreprise de consultation dans le domaine de la santé mentale et je l'ai appelée tortue.
D'ailleurs, il y a une tortue dans le livre.
Oui, il y a une tortue qui est surtout chez le psychanalyste sur le dos. D'ailleurs, ça, c'est assez particulier, une tortue sur le dos. Hein. Et puis, elle finit par découvrir qu'elle peut retourner sur ses quatre pattes en cessant de penser à...
Alors, il faut arrêter de penser en substance des choses négatives. Il y a la truite et le clochard, par exemple, qui attirent notre attention sur notre peur du rejet et sur notre incapacité à se sentir nul, inutile, exclu des autres. Et pour éviter ces abandons, en fait, vous dites qu'on fait tout pour se distinguer, pour susciter l'intérêt.
Ouais.
C'est notre inconscient, ça.
Ça, c'est l'ego, ça. C'est l'ego qui cherche toujours à être unique, spécial, extraordinaire. Et quand on y réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette part de nous qui veut toujours être unique, spéciale, et qui, quelque part, nous empêche de savourer pleinement la vie?
Et ça nous déconnecte des autres, alors?
Totalement. Et quand on veut réfléchir à ce qu'on est, quand on veut se connaître, Socrate, en connais-toi toi-même, et qu'on descend jusqu'au fond, on découvre qu'on est déjà unique. On vit au monde avec notre ADN, on vit au monde avec nos empreintes digitales, etc. Ça, on l'est déjà. Mais quand on va jusqu'au fond, on découvre que notre véritable nature, c'est d'être des êtres interconnectés, interreliés. Moi, je dis toujours, on fait disparaître les arbres de la planète, ben je meurs, hein, parce que ces arbres fabriquent l'oxygène que je respire, et c'est fini. Donc, je suis relié à tout ce qui vit.
Vous dites qu'il faut parfois un simple moment de dialogue avec un être bienveillant pour pouvoir se reconnecter.
Oui. Tout à fait.
Et se raccrocher à la vie si on est déprimé ou si on est mal aussi.
Absolument, parce qu'il y a des êtres qui tout à coup, par leur présence attentive, peuvent nous permettre de découvrir qu'on est vivant en dehors de la recherche collégo, de vouloir être unique, spécial. On est simplement vivant dans la rencontre avec l'autre, par sa présence et par celle qu'on offre aussi. Moi, j'aime beaucoup le mot bienveillance, hein. Veiller au bien. Veiller au bien de l'autre. On pense à la mère qui veille au bien de son enfant. Veille. Il y avait un humoriste québécois, Sol, Marc Favreau, qui parlait de la merveilleuse. Je trouvais ça très joli. Comme,
c'est vrai,
la merveilleuse. Alors la bienveillance, c'est ça, c'est veiller au bien ou vouloir le bien.
Est-ce que vous faites là, Serge Marquis, là en ce moment, comme nous tous d'ailleurs, hein, avec nos métiers publics, Philippe Torreton en particulier, parce que les comédiens ont beaucoup d'ego, c'est justement pour éviter de se sentir abandonné, de se sentir exclu, tout ce qu'on fait là en ce moment?
Bon, moi, personnellement, ce que je crois, c'est que j'essaie beaucoup de transmettre dans ma vie.
Oui.
Et c'est pas... Quand on me dit parfois, ah, vous voulez vous connaître du succès, vous devez être heureux. Je dis, non, le succès et le bonheur, ça n'a rien à voir. Moi, ce qui m'intéresse...
Oh, ça vous rend heureux quand même.
Ah, ben, ça me fait plaisir. Mais
bah,
ça dure pas longtemps. Hein.
Mais vous êtes comme un gamin quand vous vendez 850 000 exemplaires. Je vous ai vu.
Vous m'avez vu.
Mais oui, donc vous êtes à fond dans l'ego, vous aussi. Vous avez peur de l'abandon, Serge. Et oui, docteur.
J'essaie d'abord et avant tout, Emmanuel, d'être dans le présent. C'est ma grande recherche, ma grande quête.
Non, je m'inscris en faux sur le métier de comédien qui serait...
Non, c'était une provocation.
Oui, oui, bien sûr. Donc, mais je tombe dedans les deux pieds en avant.
Allez-y,
et tout.
Allez-y.
Mais moi, je crois au contraire que c'est plutôt l'incertitude sur qui on est et la timidité qui sont à la base de ce métier. Ouais. C'est l'envie d'aller voir ailleurs, de se mettre à la place de quelqu'un. Donc, pour moi, c'est le contraire de l'ego.
Au revoir du côté de nos libraires, ce qu'ils en pensent et comment ils ont jugé votre livre, Serge Marquis. En France, Sophie Todescato, ça ne passe pas du tout, paraît-il.
Non. Ah moi, bon. Je suis restée complètement extérieure, complètement hermétique à ce que disait le livre. Je me suis, à vrai dire, ennuyée. J'ai trouvé que les fables étaient longues. Oh. Et puis, surtout, j'ai trouvé que les clés, je n'en ai pas capté grand-chose. J'ai trouvé qu'elles enfonçaient des portes qui avaient été maintes fois ouvertes par ailleurs. Donc, non, ratées, à mon grand regret.
Vous avez un problème avec votre ego.
C'est sûrement, je ne le conteste pas.
Laura Sanchez pour la Suisse, vous n'êtes pas d'accord?
Eh bien, moi, je vous rejoins, Serge Marquis, sur l'éloge de la bienveillance, envers soi-même, entre autres, mais pas que. Je trouve que c'est une valeur très importante. Et puis, ben, votre ouvrage, il est joyeux. Et il s'adresse à ses lecteurs avec une connivence qui doit leur faire plaisir. Mais bon, moi, je suis quand même aussi très sceptique quant à ces métaphores que j'ai trouvées un peu alambiquées. Elles sont ponctuées de ces scènes avec cette tortue chez son psy, qui est une tortue extrêmement attachante, par ailleurs. Mais je crains que le lecteur finisse par se perdre.
Oui, c'est pas simple de mêler comme ça la psychanalyse, les petites histoires. C'est un peu votre spécialité, Serge. Vous osez faire ça. Vous aviez fait un roman, d'ailleurs. Le dernier livre, c'était ça. Un roman qui donnait les clés de la psychanalyse.
En fait,
vous prenez un risque.
Je crois beaucoup à la métaphore, parce que pendant toute mon enfance, on m'a raconté des histoires qui m'ont marqué, qui ouvrent le cerveau droit, qui permettent de faire passer des messages dans le cerveau gauche. Alors, à travers ça, je me suis dit, pourquoi pas me permettre moi aussi d'écrire des métaphores. Parce que ça fait une trentaine d'années quand même que je soigne des personnes qui souffrent de toutes sortes de problèmes liés à l'épuisement, à la perte de sens dans leur vie, la démotivation. Et parfois, ces personnes-là me demandent de leur raconter des histoires pour comprendre ce qu'elles vivent. On en fabrique ensemble, d'ailleurs.
Vous aidez d'ailleurs des personnes comme ça qui sont dans une forme de désespoir.
Oui.
Dans vos fables, il y a plein de personnages et des animaux qui sont dans le désespoir, qui se replient sur eux-mêmes. Parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à faire l'huître, comme on dit, à se replier sur soi. Est-ce que ça, c'est une affaire d'ego ou c'est une affaire de dignité?
C'est une affaire de protection, je dirais.
Ego ou dignité?
C'est parfois l'ego qui veut se protéger. Et encore là, on se trompe. Parce que si c'est l'ego qui cherche à se protéger, on s'éloigne encore de ce que nous sommes fondamentalement. L'être humain, dans sa dignité, ça se situe, à mes humbles yeux, à l'extérieur de cette quête que l'ego d'être exceptionnel, extraordinaire, etc. C'est ce que je crois.
Bon, la dernière phrase de votre livre, Serge Marquis, après qu'on ait lu toutes vos analyses, votre thérapie pour se sentir mieux, cette phrase, c'est « Le thérapeute, c'est vous ».
Ah oui.
Est-ce une façon de dire que les thérapies chez les psys sont inutiles et que l'on peut très bien s'analyser tout seul?
Pas du tout. Moi, je crois qu'on peut très bien être accompagné, s'accompagner, je le disais au départ, mutuellement, dans l'entraide, etc., pour découvrir qu'on a à l'intérieur de soi les capacités d'évoluer, de changer, de se transformer, etc., etc.
Oui, mais le thérapeute, c'est vous tirez une balle dans le pied.
Au bout du compte, non. Le vrai rôle du thérapeute professionnel, c'est d'aider la personne à découvrir qu'elle a un thérapeute à l'intérieur d'elle-même.
Ah oui, c'est malin.
Mais c'est vrai, parce que autrement, si le thérapeute prend le crédit de l'évolution d'une personne, il n'ira pas nulle part, parce qu'elle va toujours dépendre de ce thérapeute.
Merci beaucoup, Serge Marquis.
Ben, merci à vous.
Bienvenue parmi les humains.
Merci.
Et paru aux éditions de La Martinière. Merci Serge. La chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence avec un coup de gueule en Suisse, Laura Sanchez.
Oui, la nuit de lundi à mardi de cette semaine, une bande de sauvages a lancé une grille de bouche d'égout sur une vitrine de la librairie du boulevard. Ils ont pris la peine de signer leur geste avec un logo d'extrême droite. Non mais ça va pas la tête, en 2018 on casse une vitrine parce qu'on y voit des livres qui nous déplaisent. Emmanuel, j'aimerais enchaîner tout de suite avec un coup de cœur.
Ouais.
Parce que ce fâcheux événement a réveillé une solidarité et des témoignages de soutien envers nous qui sont extraordinaires. Et puis, on prend conscience du coup du réseau amical et militant qui tourne autour de la librairie et aussi d'un magnifique sursaut d'indignation contre les extrémismes qui rôdent.
Voilà, le milieu identitaire d'extrême droite à Genève qui a donc cassé la vitrine de la librairie du boulevard. Vous avez évidemment tout notre soutien, Laura Sanchez.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, à part que c'est minable?
C'est minable, mais la question que je me posais, c'était quel ouvrage les a rendus furieux?
Parce qu'il y avait des livres antifascistes, c'est ça, Laura?
Ouais, des livres antifascistes, ouais.
Alors, ça me fait penser aussi à une librairie qui est installée récemment à Paris, qui est une librairie identitaire d'extrême droite, affichée, qui a pignon sur rue, en plein Saint-Germain-des-Prés. Ne cassez pas la vitrine, juste passez devant, ignorez-les, ça rendra la pièce. Merci beaucoup, Laura. On va aller du côté du Canada, avec le rayon des romans contemporains, un coup de cœur, Josiane Letourneau.
Oui, avec le roman Harakiri, écrit par Maryse Latendresse aux éditions Amac. Alors, comme d'habitude, Amac ne nous épargne pas. C'est un éditeur qui aime beaucoup offrir des romans qui, en fait, dont on ne peut pas se protéger en lisant. Alors, la prémisse, on a cette petite fille qui va cogner à la porte de sa marraine pour lui annoncer que sa mère a poignardé son père et s'est ensuite auto-poignardée, d'où le titre. Des morceaux d'écriture qui sont intenses, mais qui montrent aussi que l'amour et l'écriture guérit.
Bien, Harakiri, donc de Maryse Latendresse. Elle porte bien son nom aux éditions du Septentrion. Merci beaucoup, Josiane. Déborah Damblon, un coup de gueule également en Belgique.
Oui, oui, un coup de gueule, Emmanuel, mais pas le mien. Celui de Thierry Bouard, un auteur de bande dessinée. Vous vous souvenez, on l'avait invité dans l'émission. C'est une preuve que son travail mérite l'intérêt. Eh bien, dans une petite vidéo avec presque les larmes aux yeux, cet artiste de très très grande qualité nous dit qu'il a parfois tellement de mal à joindre les deux bouts qu'il a envie de jeter l'éponge. Et notamment parce que les géants de l'Internet rechignent à vouloir payer des droits d'auteur. Eh bien, si Thierry et si d'autres artistes dans son genre pensent à arrêter, je trouve que c'est vraiment très, très, très grave. Alors, si nous faisions de son coup de gueule le nôtre, et si nous réfléchissions à des façons de consommer un peu correctes.
Oui, les auteurs de bande dessinée qui souffrent pour certains, qui ont du mal à s'en sortir.
Oui, oui, il y a une énorme précarité dans la bande dessinée. Ouais. Et puis profitons-en d'être là entre libraires et les gens qui aiment le papier pour dire fuck Amazon, quoi.
Comme non, mais il faut acheter des livres physiques.
Acheter des livres.
Ah oui, non, mais
faut
ça c'est sûr, on le dit chaque semaine. On ne lit pas sur tablette et on achète des livres dans des librairies indépendantes.
Exactement.
C'est très important, vraiment. C'est un acte presque politique aujourd'hui.
Exactement.
On termine avec notre séquence jeunesse portée cette semaine par notre libraire française Sophie Todescato. Et un hommage à une grande dame de la littérature jeunesse qui vient de nous quitter.
Oui, c'est Elsbieta, qui était effectivement une des plus grandes illustratrices pour la jeunesse, qui a disparu la semaine dernière à l'âge de 82 ans. Elsbieta, c'est d'abord toute une histoire. C'est une petite fille polonaise qui doit s'exiler pour la France pendant la guerre. Et c'est sans aucun doute le dessin qui va lui permettre d'inventer la suite, une suite à cette enfance très rude qu'elle subit. Alors Elsbieta, elle disait que l'enfant et l'artiste habitent le même pays. Et tous ses dessins, tous ses livres nous y transportent avec cette alliance très fraternelle. Du doux et du grave, de la malice et puis des peurs enfantines. Alors elle a publié plus de 50 albums,
ah oui.
On
ne
peut pas tous les citer, Flonflon et Musette,
le dernier,
Corne Folle,
ouais.
Le voyage de Coussi-Coussa, l'héritière. Ils sont publiés principalement aux éditions du Rouergue et chez Pastel à l'école des loisirs et il faut continuer à les lire, donc allez voir vos libraires.
Voilà, Petit Fiston, c'est le dernier qui est
paru Petit Fiston.
En 2013. Merci beaucoup Sophie. À suivre le nouveau livre du comédien Philippe Torreton et voici un peu de douceur créole, des souvenirs chaloupés signés Henri Salvador dans votre librairie francophone.
Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si vous aimez moins, ou amachidez moins. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si vous aimez moins, ou amachidez moins. Bich mimi piti, y piti tout piti, si y'en tissait pangage, mes amis méfiez-li, quand y tête li en l'air. Veillez garder l'angli, un bout de c'est la mort, c'est mitié en batte, un bout de c'est la mort, c'est mitié en batte. Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si vous aimez moins, ou amachez de moins. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si vous aimez moins. Ou à mâcher derrière moi, pich mimi piti, y piti tout piti. Si on disait pangage, mes amis méfiez-les. Quand ils t'aident li en l'air, veille garder l'angli. En bout de lit, c'est la mort, c'est mitié en bataille. En bout Un bout de ficelle en mort, c'est mitié en bâtée.
Henri Salvador, avec le titre, vous avez reconnu, Philippe Torreton, Luz.
Maladie d'amour, maladie de la jeunesse.
Je maladie d'amour, tout court. Tout court. Luz, vous adorez cette chanson.
Ah ouais, c'est absolument magnifique, c'est une espèce de bain de jouvence.
Mais non, mais je trouve, moi.
Ah
non,
oui, oui, moi, oui. Ah oui, oui, non, mais moi, je pépille, j'ai l'impression d'être un petit oiseau. Non, mais c'est vrai. Non, je rajoute pas. Non,
c'est vrai. Non. Vous le pensez vraiment?
Oui, oui, oui. Vous avez pas un petit vacillus derrière? S'il vous plaît.
La librairie francophone. Une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Philippe Torreton est dans la librairie francophone pour Jacques à la guerre, paru chez Plon. Je le disais tout à l'heure, c'est un livre très émouvant, l'histoire de votre père, qui perdra son propre père, très jeune, juste après la guerre en 47. Il l'admirait. Toute la famille va pourtant survivre à cette guerre, mais la guerre continuera à avoir des conséquences. Toute sa vie, ça va le poursuivre.
Oui, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, Jacques à la guerre, c'est plein de guerres en fait. C'est aussi une guerre personnelle, comment se sortir de ça. Parce que adolescent, j'avais été très troublé de découvrir un passé militaire à mon père. Je savais pas qu'il avait été militaire. J'ai découvert ça à 10-12 ans, quand on commence à fouiller dans les armoires le mercredi après-midi. Et j'ai vu des papiers militaires, des photos, l'Indochine, tout ça. Or, je savais qu'il avait été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de Rouen, qu'il avait été blessé, etc. Et je me suis toujours demandé comment on peut être victime d'une guerre et choisir de faire ses premiers pas d'adulte dans une autre, de façon volontaire, parce qu'il savait très bien qu'il irait là-bas. Et ce là-bas, c'était l'Indochine.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, ça m'a un peu poursuivi, hanté. Et puis, mon père n'a jamais été un belliqueux, au contraire. Donc
C'est une vraie fresque que vous écrivez, Philippe Torreton. Certains, dont je fais partie d'ailleurs, vont dire « encore un livre sur la guerre ». Oui, mais pas tout à fait, Philippe. Il faut le lire jusqu'au bout. Et on s'aperçoit que c'est plus que ça. C'est un livre justement sur la bienveillance et sur l'amour.
Ah oui, merci beaucoup. Ouais, c'est exactement ça. C'est sur la bienveillance, parce que c'est pour ça que j'ai mis mon père, y compris sur son lit d'hôpital dans ses derniers jours, parce que je crois que c'est un petit bonhomme qui s'est cherché et qui a trouvé son degré le plus ultime de héros. Ça a été ici et sur ce lit, et la façon dont il a eu nous désangoisser de cette vie qui allait s'en aller et nous accompagner.
Il va s'engager donc effectivement dans l'armée au moment où ça chauffe en Indochine. Il part pour fuir son enfance volée et puis sa ville de Rouen qui est en ruine. Vous écrivez, donc il dit « Je ne me rendais pas en Indochine pour tuer du Viet Minh. J'y allais parce que j'ignorais quoi faire d'autre. J'y allais parce que tout m'emmerdait, parce qu'on m'avait volé mon enfance à coups de bombardement, parce qu'on avait détruit ma ville, mon panorama, mes rêves. » Tout est là.
Mais je crois, ouais. Et il y en avait beaucoup de comme lui, en fait, parce qu'on retient de l'Indochine que les parachutistes qui sautent sur Dien Bien Phu, Bijar et les autres, mais la plupart des mecs, c'était des petits mecs qui avaient souffert, qui avaient des carences alimentaires pendant l'occupation, et qui se retrouvaient dans des villes en ruine, qu'on subit cette occupation à un âge où on est fait pour sortir, faire des conneries, découvrir les filles, et eux, ils ont pas pu faire ça. Et donc, le service militaire, mon père m'a dit, mais c'est la première fois qu'on m'a dit, c'est bien ce que tu fais. Voilà. On a besoin de gars comme toi. Et quand on n'a pas c'est pour ça que je plaide pour la culture, parce que c'est la culture qui nous préserve de ça. Mais quand on n'a pas accès à ça, quand le milieu familial n'est pas, il n'y a pas de livres qui se prêtent, il n'y a pas de films, il n'y a pas d'émulation culturelle, finalement, on est en peine de qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je vais faire, et finalement la guerre, paradoxalement, via l'armée, mais est une réponse qu'on peut accepter. Et moi-même, j'ai eu ça aussi. J'étais tout le temps fasciné par la guerre.
Quand vous avez hésité à vous engager?
Une fois, ouais.
Ah ouais? Pour aller où?
Mais quand c'était à Rouen, il y avait le bureau de la Légion étrangère, je suis monté, et là, il y a un gros mec qui est sorti un peu, il aurait pu être dessiné par Cabu d'ailleurs. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je fais rien. Puis je suis parti.
Ça m'a fait peur. Vous n'avez pas osé du tout, en fait, Philippe.
Non, mais pourquoi monter les escaliers? Pourquoi monter deux étages dans un vieil immeuble de Rouen avec plein d'affiches, engagez-vous, tout ça?
Votre père va se confronter, en tout cas, au choix, justement, de rester ou de partir. Il comprend, grâce à un soldat blessé, qui lui confie en fait une mission lors de son retour, il est encore en Indochine, il s'en va, il se dit je reste, je pars, et puis il voit un gars, un pauvre gars qui a pris une balle là où il fallait pas, et il lui donne une mission. Et sa mission, c'est de fonder une famille. Et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va réussir, votre père.
Ouais, j'ai eu cette idée-là parce que mon père n'a jamais voulait qu'un enfant, et puis il a eu trois garçons. Donc, je me suis dit que si c'était ancré en lui, il y avait peut-être aussi le fait de souffrir d'une fratrie un peu grande avec un frère aîné dominateur et qui ouvrait le terrain avant lui. Et puis, mais je me suis dit ça pourrait être bien que ce soit symbolisé par ce soldat blessé qui est en apparence normal. Simplement, il a pris une balle là où il faut pas si on veut avoir quelques relations sexuelles plus tard. Et il dit tu feras un gosse à ma place, t'en prendras un pour toi. Puis tu m'en files un, mais symboliquement.
Tu lui donneras le prénom de Benjamin.
Benjamin, oui. Ouais.
Bon, il y a l'ami d'enfance aussi, Pierre, ouais, avec qui il est embarqué par les Allemands alors qu'il est gamin et qu'il joue au ballon dans son quartier de Rouen. Cet ami ne sera pas toujours près de lui, mais il ne le quittera jamais vraiment. Mmh. Et il y a un très beau passage, lorsque Jacques est à l'hôpital, juste avant sa mort, entouré de sa famille, entouré de vous, Philippe Torreton, Pierrot vient le voir. C'est Luz qui va lire cet extrait sur la bande originale du film Capitaine Conan.
Viens t'asseoir près de moi, Pierrot, pour entamer notre dernière promenade. Tu le sais ça, n'est-ce pas? Viens t'asseoir près de moi. T'as compris en lisant dans mes yeux, Pierrot? Voilà, on y est. Toutes les époques défilent entre nous. Ça se croise, ça avance et recule. C'est le tout pour le tout de la mémoire, ce désordre. Son bouquet final. Et on va regarder cette apothéose. Ce feu d'artifice de souvenirs sans mot dire, tous les deux, depuis notre côte de bon secours. Viens, mon Robic, viens. Allons nous asseoir là-haut et contemplons nos vies. Ma femme nous observe, inquiète de notre silence. Vous ne dites rien, s'étonne-t-elle. Pierrot redresse sa bouille de timide et murmure que ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de se parler, c'est bien ce qu'on a dans la tête.
La lecture de Luz, un extrait du dernier roman de Philippe Torreton. Vous êtes très ému, Philippe.
Ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'étais vraiment impressionné de voir la tête de mon père, voyant son Pierrot. Et puis ils se sont pris la main, en faisant attention aux aiguilles, tout ça. Bon. Et puis ils se disaient rien. La suite, il dit bravo, j'aurais pas dit mieux,
oui,
t'as encore un bon coup de pédale et tout. Pédale, ouais. Et j'aime bien cette pudeur de ces gens-là. Ça passe pas par les mots, on est là ensemble, ça suffit.
Mais c'est ça la véritable amitié en fait.
Ouais, je crois,
c'est quand on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre et qu'on est en connexion.
Ouais.
C'est ça l'amitié.
Et ouais, et puis il y a un paradoxe. Moi, j'ai pu faire un métier d'expression, donc ce que j'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, si j'avais été maçon, j'aurais construit une maison à papa et maman. Là, j'ai construit un livre.
Absolument.
Docteur Marquis.
On peut être dans le silence pendant des heures de temps et tellement bien se comprendre. Alors, tout à fait, l'amitié, c'est ça.
Allez, les libraires, pour atténuer notre émotion, pour le Canada, Josiane Letourneau est prête à bondir. Vous avez adoré ce livre, Josiane.
Ah oui, j'ai été complètement emportée et séduite par le roman dès le départ. J'ai été étonnée par sa justesse et par la crédibilité sans faille de ses personnages. Ce garçon qui est si admiratif de son père, de tout ce que son père représente pour lui. En fait, c'est le regard que chaque enfant porte sur son propre père. Mmh. Et c'est ce regard, cet amour qui fait écho en nous tout au long de cette histoire, qui donne à la voix du narrateur une telle vie, une telle vivacité. Et je trouve que c'est un roman qui rend d'une manière fort unique hommage à des thèmes universels, mais qui prouve que la grande histoire est habitée par la somme de milliers d'êtres singuliers, en fait.
Sophie Todescato pour la France, êtes-vous d'accord?
Oui, oui, moi j'ai trouvé que c'était bien. Alors bien sûr, on peut chipoter parce que c'est un premier roman, c'est pas votre premier livre, mais c'est un premier roman, donc il y a peut-être quelques petites maladresses de style ou des effets un peu trop appuyés, mais de mon point de vue, ça n'entame pas du tout l'essentiel du livre, qui est que une forme de vérité en surgit, et une vérité que j'ai trouvée extrêmement, extrêmement touchante.
Déborah Damblon pour la Belgique.
Bah moi l'écriture, je trouve pas qu'il y avait de maladresse. J'ai été touchée par cette écriture. Mmh. Mais quel talent vous avez pour manier les mots. Mmh. Mais au-delà, en plus de cet usage des mots qui se suffirait presque à lui-même à mon avis, j'ai été infiniment touchée par cette incroyable capacité à vous glisser dans l'autre. Parce que vous faites totalement abnégation de vous et vous vous coulez dans l'autre. Vous lui donnez votre voix et remontez le courant en quelque sorte. Alors peut-être n'est-on jamais aussi bien soi-même en acceptant totalement de l'où on vient.
C'est vrai qu'il y a, je crois à ça, oui. Il y a une grande force dans ce livre, Philippe Torreton, une grande volonté d'exister et de vivre. On ne s'apitoie pas, on avance avec ce qu'on a. Sans grande ambition d'ailleurs, mais ce n'est pas le plus important. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup, vous avez eu de l'ambition pour les autres par transfert, Philippe ?
Quelles autres, pardon, l'ambition pour les autres ?
Pour votre famille.
Ah... Non, il y a rien de...
En devenant célèbre, je veux dire, en faisant tout ce que vous faites.
Non. Non, c'était même problématique pour moi, ça, ouais. Cet aspect-là des choses. J'ai vécu ça comme une maladie professionnelle. C'est comme quand on devient sourd, quand on travaille en fonderie, on peut devenir célèbre quand on est comédien. C'était un peu chiant pour moi dans ma famille.
Mais après, vous l'avez entretenu quand même.
Après, quand je vois que ça fait plaisir et puis que mon père, par exemple, je crois qu'il était rassuré de voir que j'avais pas changé, j'avais beau faire certaines choses, j'étais capable de tailler le bois dans le jardin avec lui sans souci, puis de mettre ses bleus de travail et voilà. Donc il y avait une fois que c'était, ils étaient rassurés par ça, mais c'est vrai que ça change le regard. Enfin, ça potentiellement, ça peut changer le regard.
Votre père s'est vraiment confié à vous pour vous dire qu'il avait pleuré le jour où vous avez joué pour la première fois à la Comédie Française.
Alors il me l'a pas dit, justement, c'est mon petit frère qui me l'a dit. Ouais. La première fois que j'ai joué, ouais, à 20h, à la maison, on dînait tout le temps en face du journal, et puis à 20h, il a fait « Philippe rentre en scène ». Et puis il paraît qu'il a mis sa tête dans ses mains, et puis il a pleuré. Et... voilà, donc ça c'est un hommage. Oui, c'en est indirectement, mais c'est surtout j'ai voulu donner une voix à ça. Mon père était un taiseux et puis on a vécu une vie vraiment bien, mais j'ai pas eu d'intimité avec mon père. Il nous accompagnait pas dans les devoirs. Je pense que notre enfance libre, joyeuse, indépendante, Charlie Hebdo, Harakiri, tout ça, il l'a pas eu ça. Ouais. Il l'a pas eu. Voilà. Donc il était mal à l'aise avec ça. Voilà. Il voulait qu'on fasse des études, mais il rouspétait parce que les livres de la bibliothèque disparaissaient. Mais on lui dit, mais s'ils disparaissent, c'est qu'ils sont sur nos bureaux, c'est qu'on travaille. Ouais, mais il faut les ranger. Bah oui, mais... donc il y avait cette ambivalence-là. Mais... Et puis après, devenu vieux monsieur, ça l'expression de l'amour a repris le dessus.
Merci beaucoup Philippe Torreton, merci pour votre émotion, votre sincérité. Jacques à la guerre est paru chez Plon, un roman confidence plein d'humanisme et d'amour. Merci beaucoup.
Merci,
merci Philippe, merci Luz.
Merci.
Merci docteur Marquis.
Ouais, c'est un plaisir d'être ici, merci.
Merci à vous, à très bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe suisse Lem avec un extrait de Merlicht.
Orage, orage, et tout le reste, c'est de la prose. Eddie Constantine se lève.
L'aime avec Merlicht, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet avec Rémi Sistiaga, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Putt en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Tardy, Isabelle Giordano pour parler de Catherine Deneuve. Super une d'ailleurs de Charlie Hebdo sur Catherine Deneuve, Luce, vous vous rappelez?
Ah oui, oui, je m'en passe. Quelques déboire. Oh, en tout cas, apparemment, Depardieu n'a pas aimé, il me court toujours après.
Ah bon ? Nous serons aussi avec l'écrivain suisse Eugène. Passez un bon week-end, une bonne semaine. À bientôt, salut.